Chapitre 48. Des adieux. Une fois de retour dans la roulotte, Ninevé revêtit une robe décente, non sans râler d'abondance parce qu'elle dut défaire seule des dizaines de boutons, puis en fermer des dizaines d'autres. La robe de laine grise, très ordinaire, bien qu'elle fût d'une bonne coupe, n'attirerait pas l'attention sur elle, mais elle lui tiendrait beaucoup plus chaud. Pourtant, elle fut ravie d'être de nouveau habillée correctement, non sans l'impression bizarre, pourtant, de porter bien trop de vêtements. Mais ça, ce devait être dû à la chaleur. S'agenouillant devant le poêle, elle ouvrit la porte de fer qui protégeait ses trésors et ceux d'Elaine. L'anneau de pierre, la chevalière de l'âne et sa bague au serpent seraient très bien dans la bourse qu'elle portait à la ceinture. Le coffret doré contenant les gemmes offertes par Amaterra trouva place dans le sac de cuir où l'ancienne sage-dame rangeait les sachets d'herbe empruntés à Rondemakura, à Mardessine, ainsi que le petit mortier et le pilon qui servaient aux préparations. Du bout des doigts, elle toucha les sachets pour se remémorer ce qu'ils contenaient, de la précieuse plante soigne-tout à la répugnante fourche-racine. Elle fourra aussi dans le sac les lettres de crédit et 3 bourses sur 6, toutes bien dégonflées après le paiement des frais de voyage de la ménagerie jusqu'au Gealdan. S'il avait renoncé à ses 100 couronnes d'or, Valan Nuka n'avait pas fait montre de la même générosité en ce qui concernait le défraiement. Une des lettres de la chaire d'Amirline, donnant à la porteuse toutes sortes de droits, finit aussi dans la bourse de Ninevé. À Samara, on avait entendu seulement de très vagues rumeurs sur les troubles récents à Tarvalon. Du coup, même avec la signature de Suan Sanche, la lettre pouvait se révéler utile. Ninevé laissa dans le poêle la boîte en bois noir, les 3 autres bourses et le sac de toile de jute qui contenait la dame, un objet qu'elle refusait de toucher. Elle ne prit pas non plus la flèche d'argent qu'Hélène avait trouvée la nuit de la calamiteuse rencontre avec Moghedienne. Un moment, elle regarda le projectile en songeant à Moghedienne. Le mieux semblait de faire tout ce qui était possible pour l'éviter. « Pourtant, j'ai eu le dessus sur elle une fois !» Pour se retrouver suspendue comme un chapelet de saucisses dans une cuisine, la deuxième fois. Sans Birgit, elle a pris sa décision seule. L'héroïne le clamait, et c'était la stricte vérité. Je pourrais vaincre de nouveau Moghedienne, certes, mais si j'échouais... Si elle échouait... Ninevé prit conscience qu'elle tentait de retarder le moment de s'occuper de la bourse en peau de chamois, rangée tout au fond de la cachette. Pourtant, quelle différence y avait-il entre l'horreur que lui inspirait cette bourse et l'idée d'être une nouvelle fois vaincue par Moghedienne? Retenant son souffle, la jeune femme saisit les cordons de cuir et tira vers elle la sinistre bourse. Aussitôt, elle comprit qu'elle se trompait. La différence était énorme. Le mal semblait envelopper sa main, comme si le ténébreux tentait de se libérer en traversant le seau en Quendillard enfermé dans la bourse. Broyer du noir une journée entière au sujet d'une éventuelle défaite contre la rejetée n'était rien comparé à ce contact direct et tangible avec les ténèbres. Sans doute un tour que lui jouait son imagination, car à Tanchico, Ninevé n'avait pas du tout eu le même sentiment. Mais elle regrettait de ne pas pouvoir confier le disque à Elaine, ou mieux encore, de n'avoir pas la possibilité de le laisser là.
« Cesse de te comporter comme une idiote. Ce sceau maintient fermée la prison du ténébreux. Ne lâche pas la bonde à tes fantaisies. »
Ninevé laissa pourtant tomber la bourse, comme un rat crevé, sur une des robes écarlates que Luca avait fait confectionner. Puis elle l'en enveloppa et noua le tout avec une hâte suspecte. Le paquet de soie trouva sa place au milieu d'un tas de vêtements qu'elle emporterait, sa cape de voyage transformée provisoirement en ballot. La distance, si minime fut-elle, suffit à éliminer la sensation de malaise due au disque. Bizarrement, Ninevé eut toujours autant envie de se laver les mains. Pour être sereine, il aurait fallu qu'elle ignore la présence de l'artefact. Quelle idiote elle faisait! Elaine se serait moquée d'elle, tout comme Birgit, et à juste titre. En réalité, ses vêtements tenaient dans 2 ballots, et elle regrettait le moindre fil qu'elle était obligée d'abandonner. Même la robe de soie bleue outrageusement décolletée. Non qu'elle ait eu l'intention de porter de nouveau une telle tenue. L'écarlate, elle n'avait plus l'intention de la toucher avant de pouvoir la remettre à une Aes Sedai à Salidar. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'additionner le prix des vêtements, des montures et des divers véhicules qu'Elaine et elle avaient laissés en arrière depuis leur départ de Tanchico. Sans parler du tout premier chariot et des tonneaux de teinture. Elaine elle-même aurait fait la moue si elle avait daigné penser à ce genre de choses. mais elle considérait que l'argent tombait du ciel ou que les bourses n'étaient jamais vides quand elle avait besoin d'épuiser de l'argent. L'ancienne sage-dame finissait son second ballot de vêtements lorsque la fille héritière revint et, sans un mot, se débarrassa des paillettes pour enfiler une robe de soie bleue. Sans un mot, certes, mais non sans râler, quand il lui fallut se tordre les bras pour fermer une multitude de boutons dans son dos. Nineveh l'aurait volontiers aidée si la future reine lui avait demandé. Comme ce n'était pas le cas, l'ancienne sage-dame observa attentivement sa compagne pendant qu'elle se changeait en quête de horion ou d'échymose. Un peu plus tôt, entendant un cri, elle s'était demandé si Elaine et Birgit en étaient enfin venus aux mains. Constatant que la fille héritière était indemne, Nineveh ne sut pas trop si elle devait s'en réjouir ou non. En un sens, un bateau était un endroit aussi clos qu'une roulotte, et la croisière n'aurait rien de plaisant si les deux chippies se sautaient tout le temps à la gorge. Une bonne bagarre les aurait au moins calmés pour un moment. En faisant ses bagages, Elaine ne desserra pas les lèvres, même quand Nineveh lui demanda, fort aimablement, où elle était partie au pas de course, pressée comme si elle venait de s'asseoir sur des chardons. En revanche, comme si elle occupait déjà le trône de sa mère, la future tête couronnée pointa le menton et gratifia sa compagne d'un regard glacial. Parfois, les silences d'Elaine en disaient beaucoup plus long que ses discours. Quand elle trouva les trois bourses restantes, elle marqua une pause avant de les prendre, et la température baissa très nettement dans la roulotte. Pourtant, ces bourses étaient tout simplement la part de la fille héritière. Fatiguée de s'entendre critiquer au sujet de sa radinerie, Nineveh jubilait à l'idée de voir Elaine blêmir un peu plus chaque fois que l'argent lui coulerait entre les doigts comme du sable. Ainsi, elle finirait peut-être par comprendre que leurs ressources n'étaient pas inépuisables. Puis Elaine s'aperçut que l'anneau de pierre n'était plus dans la cachette, contrairement à la boîte noire. Soulevant le couvercle, elle fit la moue en étudiant les deux autres terres angréales qu'elle transportait depuis leur départ de Théar. Un petit disque de fer portant gravé sur chaque face une spirale très serrée et une plaque étroite d'environ 5 pouces de long, apparemment en ambre mais plus dure que de l'acier, sur laquelle était gravée une femme endormie. Les deux pouvaient servir à entrer dans le monde des rêves, mais beaucoup moins aisément qu'en ayant recours à l'anneau de pierre. Car pour les utiliser, il fallait canaliser des flux d'esprit, le seul des 5 pouvoirs qu'il était possible de manier en dormant. Puisqu'elle se chargeait de l'anneau, Nineveh estimait équitable de laisser les deux autres terres angréales à Elaine. Refermant le couvercle, cette dernière rangea la boîte au milieu de ses vêtements avec la flèche d'argent, sans broncher ni lâcher un mot, mais certains silences avaient quelque chose d'explosif. Elaine fit aussi 2 ballots, mais beaucoup plus gros que ceux de Nineveh. En fait, elle ne laissa rien, sauf les collants et les vestes à paillettes. L'ancienne sage-dame s'abstint de lui faire perfidement remarquer qu'elle avait oublié ses splendides tenues. Considérant la bouderie ambiante, c'eût été de bonne guerre. Mais Nineveh, elle, savait comment ramener l'harmonie entre les êtres. Par exemple, elle se limita à un soupir typiquement féminin lorsque Elaine, très ostensiblement, ajouta la dame à ses affaires. À la réaction de la fille héritière, pour un seul soupir, on aurait pu croire que Nineveh avait passé sa journée à émettre des objections virulentes. En conséquence, quand les deux femmes quittèrent la roulotte, leur silence glacial aurait pu être pilé pour servir à rafraîchir du vin. Bien entendu, les hommes attendaient, déjà prêts. Et comme de juste, ils marmonnaient entre eux et jetèrent des regards impatients aux deux femmes. Encore un déni de justice. Pour commencer, Galad et Uno n'avaient rien eu à préparer. Quant à Tom et Julien, à part ses instruments pour l'un et ses armes pour l'autre, ils transportaient des ballots si minuscules qu'il avait dû leur falloir 5 minutes pour les faire. Ces sacrés bons hommes, parfaitement disposés à porter les mêmes vêtements jusqu'à ce qu'ils aient fini de pourrir sur leur dos. Cela dit, Birgit était prête aussi. Son arc à la main, un carquois à la hanche, elle avait posé à ses pieds un ballot à peine plus petit que ceux de la fille héritière. Nineveh n'aurait pas été surprise que les robes offertes par Lucas soient à l'intérieur. En revanche, la tenue de l'héroïne l'étonna beaucoup. L'espèce de jupe-culotte qu'elle portait ressemblait au pantalon bouffant qu'elle arborait dans le monde des rêves, n'était la couleur, vieil or plutôt que jaune, et les jambes non resserrées sur les chevilles. Et sa veste bleue était également d'une coupe qui rappelait quelque chose à Nineveh. D'où venaient ses vêtements? Le mystère fut résolu quand Clarine arriva au pas de course, s'excusant d'avoir mis si longtemps, avec 2 autres jupes et une veste supplémentaire que Birgit ajouta dans son ballot. Clarine s'attarda pour dire combien elle était désolée de les voir quitter la troupe. Elle ne fut pas la seule à délaisser un moment les préparatifs du départ pour venir faire ses adieux aux cinq artistes. Après leur avoir offert deux boîtes de ces excentriques allumettes, ou quel que soit le nom qu'elle leur donnait, Aloudra leur souhaita bon voyage avec un accent du Tarabone à couper au couteau. Avec un soupir, Ninevé rangea dans son sac de cuir l'embarrassant cadeau. Alors qu'Hélène avait poussé les boîtes précédentes au fond de l'étagère, derrière des sacs de haricots, agissant dans le dos de Ninevé, cette dernière avait pris garde à les oublier quand elle avait inspecté une dernière fois la roulotte. Faisant mine de ne pas voir les reins inquiets de sa femme, Petra proposa d'escorter le petit groupe jusqu'au fleuve. Les Chavana et les jongleurs, Kin et Barry, offrirent de venir aussi. Mais si Petra se rembrunit quand Ninevé affirma que ce n'était pas la peine, très vite, car Galad, Tom, Julien et Uno semblaient disposés à accepter des renforts, tous les autres eurent du mal à dissimuler leur soulagement. Surprise ultime, Latel en personne vint faire ses adieux, très brièvement, avec des excuses, des sourires mielleux et une lueur dans le regard indiquant qu'elle aurait été prête à porter tous les bagages seule si ça avait pu accélérer le départ de tous ces fâcheux. En revanche, Serandine ne se montra pas. Assez étonnée, Ninevé n'en eut pas vraiment le cœur brisé. Même si Elaine s'entendait à merveille avec la Séanchanienne, l'ancienne sage-dame, depuis la malheureuse affaire où elle s'était fait rosser, sentait en permanence une sorte de tension dès qu'elle se trouvait à proximité de sa némésis. Et l'absence d'un malaise correspondant chez Serandine ne faisait rien pour arranger les choses, bien au contraire. Luca vint naturellement le dernier. Offrant à Ninevé un pitoyable bouquet de fleurs des champs desséchés, la lumière seule savait où il les avait dénichés, il protesta de son amour éternel pour la mère de ses enfants, débita d'interminables et extravagants compliments sur sa beauté et jura, la main sur le cœur, qu'il la reverrait un jour, même s'il devait pour cela voyager jusqu'au bout du monde. Ninevé n'aurait su dire ce qui la fit le plus rougir dans ce discours délirant, mais au moins, son regard glacial effaça d'un coup le sourire goguenard de Julien et l'air stupéfait d'Uno. Quoique Tom et Galad aient pensé de tout ça, ils eurent la présence d'esprit de ne rien en montrer. Quant à Birgit et Elaine, Ninevé ne parvint pas à trouver la force d'âme de les regarder. Elle resta donc là à écouter, les fleurs fanées baissant tristement la tête entre ses mains, et à s'empourprer comme une gamine. Un moment, elle envisagea de gifler Luca, histoire qu'il déguerpisse. Mais une telle réaction l'aurait probablement encouragée à insister encore plus. Pire encore, serait fournie aux témoins des raisons supplémentaires de ricaner. L'ancienne sage-dame eut du mal à ne pas soupirer de soulagement quand son crétin de galant se tut enfin, la saluant d'un grand balayage ridicule de sa cape rouge. Sans lâcher les fleurs ni tourner la tête vers ses compagnons, pour ne pas rajouter à son malaise, Ninevé se mit en chemin à grandes enjambées, ses ballots glissant sans cesse sur ses épaules, jusqu'à ce qu'elle soit sortie du chapiteau. Enfin hors de vue des chariots, elle jeta le bouquet avec une telle rage que Ragan et les autres hommes d'Uno, qui attendaient dans la prairie non loin de la route, se regardèrent plus que pensivement. Tous portaient dans le dos un ballot, petit bien entendu. Mais ces guerriers, en revanche, s'étaient lestés d'assez de gourdes pour s'hydrater pendant des jours et beaucoup avaient une casserole ou une bouilloire accrochée à la ceinture. Parfait. S'il fallait cuisiner, eh bien, ils s'en chargeraient. Sans laisser le temps à ces types de décider si elle était dangereuse ou non, Ninevé s'engagea seule sur la route. Valan Nuka était bien sûr la source de son courroux. La voir humiliée ainsi, quelle horreur! Elle aurait dû le gifler, et que le ténébreux emporte les témoins et ce qu'ils en auraient pensé. Cela dit, la cible de sa rage, c'était l'âne Mandragoran, qui ne lui avait jamais offert de fleurs. Encore que ça n'avait guère d'importance, car il avait su exprimer ses sentiments avec des mots d'une profondeur et d'une sincérité dont Valan Nuka aurait été bien incapable. Tout ce que la jeune femme avait répondu au bouillant patron de ménagerie était vrai. Mais si l'âne avait eu l'intention d'enlever sa belle, rien n'aurait pu l'en empêcher, même pas le pouvoir. Sauf si elle était parvenue à y recourir avant qu'il ait fait fondre son cerveau et trembler ses genoux à grand renfort de baisers. D'accord. Mais les fleurs, c'était quand même pas mal, non? En tout cas, préférable à d'interminables tirades sur les raisons qui rendaient leur amour impossible. L'éternel blabla des hommes. Et leur sempiternel honneur. Mariée à la mort, disait-il. Et engagée dans une guerre personnelle contre les ténèbres. Eh bien, il allait survivre et l'épouser. Et s'il se montrait contrariant sur l'un ou l'autre point, elle le remettrait dans le droit chemin. L'ennui, c'était son lien avec Moiraine, qui le contraignait à la suivre comme son ombre. De quoi hurler de rage. Ninevée avait fait une bonne centaine de pas sur la route quand ses compagnons la rejoignirent, la regardant de biais. Tout en luttant contre les deux énormes ballots accrochés dans son dos, tant pis pour elle, elle n'était pas obligée de tout emporter, Elaine se contenta d'un de ces soupirs bien féminins dont l'ancienne sage-dame n'avait jamais tant regretté de n'avoir pas l'exclusivité. Birgit, en revanche, marcha à côté de Ninevée, en marmonnant des amabilités sur les femmes qui font cette tête baissée, à l'instar de jeunes carpaniennes se jetant tête la première du haut d'une falaise. Ninevée ignora superbement les deux chippies. Les hommes se déployèrent, Galad, Tom et Julien marchant devant, tandis que les guerriers du Chiennard se chargeaient des flancs de la petite colonne, leurs yeux en perpétuel mouvement. Au milieu de cette garde d'honneur, Ninevée se sentit totalement ridicule. Ces types croyaient-ils qu'une armée ennemie allait jaillir du sol? Pensaient-ils que les trois femmes qu'ils escortaient étaient sans défense? Pourquoi, imitant ou non, avaient-ils tous tiré au clair leur épée? Car enfin, il n'y avait pas âme qui vive à trois lieues à la ronde, et tous les villages improvisés étaient déserts. Si Galad ne toucha pas à son épée, Julien cessa de se servir de son bâton comme d'une canne et le brandit martialement. Quant à Tom, des couteaux apparaissaient dans ses mains pour disparaître aussitôt, comme s'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait. Sans doute frappé par la contagion, Birgit encocha une flèche sur son arc. Eh bien, pour s'en prendre à une bande pareille, il faudrait des émeutiers plus courageux que des lions. Une fois dans Samara, cependant, Ninevée regretta de ne pas avoir accepté l'assistance de Petra, d'Echavana et de quiconque d'autre disposé à l'escorter. Alors que les portes ouvertes n'étaient plus gardées, six colonnes de fumée noire montaient désormais de la ville. Dans les rues désertes, des fragments de vitres cassées craquèrent sous les semelles du petit groupe. Le seul bruit, à part un bourdonnement lointain, comme si des guêpes géantes avaient envahi la cité. Des morceaux de meubles et des lambeaux de vêtements jonchaient les pavés au milieu de fragments de vaisselle, de casseroles cabossées et d'une multitude d'autres objets volés par des pillards dans des boutiques et des maisons ou semés en chemin par des fugitifs affolés. Mais les dégâts n'étaient pas que matériels. À un endroit, Ninevée aperçut un cadavre en veste verte dépassant à moitié d'une fenêtre. Un peu plus loin, un homme vêtu de haillons avait été pendu à l'enseigne d'un marchand de produits en fer blanc. De temps en temps, en passant devant une ruelle, la jeune femme aperçut ce qui semblait être des ballots de vêtements abandonnés. Mais les ballots ne portaient ni chaussures ni chapeaux. Dans l'entrée d'une maison dont la porte brisée tenait encore par miracle à ses gonds, des flammes léchaient une cage d'escalier d'où les premières volutes de fumée commençaient à se dégager. Si les rues étaient vides, les responsables de ces exactions ne devaient pas être partis depuis longtemps. Tournant sans cesse la tête pour veiller au grain dans toutes les directions, Ninevée posa la main sur le manche du couteau accroché à sa ceinture. Parfois, le bourdonnement, tel un cri de rage collectif, semblait se rapprocher, comme si les guêpes étaient à une rue de distance. À d'autres moments, il se faisait tout aussi discret qu'un murmure. Et bien entendu, quand les ennuis frappèrent, ce fut presque en silence et sans le moindre avertissement. Comme une meute de loups en chasse, la horde d'hommes surgit des deux côtés de la rue dans un martèlement de semelles de bottes. Évidemment, découvrir trois femmes fit à ces prédateurs l'effet que produit une torche enflammée jetée dans un grenier à foin. Chargeant tous ensemble, ces bandits brandissaient des fourches, des épées, des haches et des massues, plus une infinité d'outils ou d'ustensiles susceptibles de servir d'armes. Encore assez en colère pour s'unir aux Saïdar, Ninevée réagit avant même d'avoir vu l'aura du pouvoir envelopper Elaine. À elle seule, l'ancienne sage-dame aurait pu arrêter la populace d'une dizaine de façons différentes. Et si elle avait voulu la massacrer, elle aurait eu une bonne dizaine d'autres méthodes à sa disposition. Hélas, c'était compté sans Mogadienne. La même considération incitait-elle Elaine à se retenir? Peut-être, et peut-être pas. Pour son compte, Ninevée s'accrochait avec une égale ferveur à sa colère et à la source authentique. Et son problème était bien plus l'éventualité d'attirer l'attention de Mogadienne que la menace représentée par les émeutiers. Tant qu'il y aurait une autre façon de s'en sortir, comprit-elle, il ne serait pas question qu'elle intervienne. Et elle regrettait presque de ne pas pouvoir couper les flux tissés par Elaine. Il devait y avoir une autre solution. Vêtue d'une veste rouge froissée qui avait dû appartenir à quelqu'un d'autre, si on en jugeait par les broderies vert et or, un colosse hirsute se détacha des autres, une hache de bûcheron levée au-dessus de sa tête. La flèche tirée par Birgit se fichant dans son œil droit, il tomba comme une masse, et fut aussitôt piétiné par ses compagnons aux yeux haineux et à la bouche ouverte sur un rugissement de rage muet. rien n'arrêterait cette tueur. Avec un petit cri, moitié indignation et moitié terreur, Ninevé dégaina son couteau et se prépara à canaliser. Comme une vague sur des rochers, la charge se brisa sur l'acier du chiennard. Presque aussi loqueteux que leurs adversaires, les guerriers au crâne rasé surmonté d'un toupet manièrent leur épée à longue poignée avec la précision d'artisans concentrés sur leur ouvrage, et les hostilités se déroulèrent sur la fine ligne de front qu'ils venaient de constituer. Criant leur amour pour le prophète, des hommes tombaient les uns après les autres, mais de nouveaux fanatiques les remplaçaient aussitôt, piétinant leurs cadavres. Bien entendu, ce fou de Julin était venu se placer en première ligne, son bâton déviant les épées à la vitesse de l'éclair et brisant des bras ou des crânes presque à chaque coup. Placé un peu en retrait, sa claudication plus marquée que jamais, Tom allait et venait le long du front, se chargeant d'égorger ou d'éventrer les rares assaillants qui parvenaient à passer. Avec un couteau dans chaque main, rien de plus, il parvenait sans peine à embrocher des escrimeurs bien plus jeunes et bien plus valides que lui. Au combat, le vieil artiste conservait une expression fermée, comme s'il ne trouvait rien d'exaltant dans tout ça. Pourtant, quand un type en gilet de forgeron faillit blesser Elaine avec sa fourche, le trouvère se transforma soudain en un fauve rugissant. Bondissant sur l'agresseur, il le décapita à moitié, tant il mit d'énergie à lui trancher la gorge. Dans la cohue, Birgit, toujours très calme, décochait flèche sur flèche, chacune trouvant un œil comme cible. Si les rochers du chiennard, avec un peu d'aide, parvinrent à contenir la déferlante humaine, ce fut Galad qui la repoussa. Tranquille comme s'il attendait la danse suivante lors d'un bal, il avait attendu les bras croisés, daignant seulement dégainer son épée lorsque les fanatiques furent quasiment sur lui. À ce moment-là, il se mit à danser, effectivement, sa grâce se muant en une fluidité mortelle. Ne s'opposant pas à la progression ennemie, il alla tout au contraire à sa rencontre, semant la mort au cœur même des rangs serrés de brutes. À certains moments, cinq ou six hommes parvinrent à l'encercler, épée, hache ou fourche brandie. Mais ce fut la dernière chose qu'ils firent avant de mourir. Au bout du compte, malgré leur rage aveugle et leur soif de sang, les émeutiers ne purent plus affronter ce véritable messager de la mort. Jetant ses armes, un premier homme tourna les talons et s'enfuit. Le signal de la débandade. Les autres l'imitèrent, s'en retournant d'où ils venaient, en laissant leur vainqueur debout seul, au milieu d'un champ de cadavres et d'agonisants. Ninevé frissonna lorsque Galad se pencha pour essuyer sa lame sur la veste d'un mort. Même en faisant ça, il restait gracieux comme un félin. L'ancienne sage-dame eut néanmoins l'impression qu'elle allait rendre son petit déjeuner. Combien de temps pour ce carnage ? Hors d'haleine, plusieurs guerriers du chiennard appuyés à leur épée regardaient Galad avec des yeux pleins de respect. Plié en deux, une main sur son genou fragile, Tom tentait de se débarrasser d'Elaine en l'assurant qu'il avait simplement besoin de reprendre son souffle. Combien de temps ? Quelques minutes ou une heure, c'était impossible à dire. Alors qu'elle regardait les blessés gisant sur le sol, Ninevé, pour la première fois de sa vie, n'éprouva ni pitié ni envie de leur porter secours. Non loin d'elle, une fourche reposait dans la poussière où son propriétaire l'avait jetée. La tête d'un homme était fichée sur une dent et celle d'une femme sur l'autre. Prise de nausée, Ninevé se réjouit simplement qu'il ne s'agisse pas de sa tête à elle. Mais pourquoi tremblait-elle de froid par une chaleur pareille ?
« Merci, »
dit-elle à personne en particulier et à tous ceux qui l'entouraient.
« Merci beaucoup. »
N'aimant pas à avouer qu'elle avait eu besoin des autres, Ninevé eut l'impression que ces mots lui arrachaient la gorge. Cependant, ils étaient sincères. Voyant Birgit hocher la tête, l'ancienne sage-dame dut quand même lutter contre son naturel qui revenait au galop. Mais l'héroïne avait fait sa part du travail, soit beaucoup plus que Ninevé.
« Tu tires très bien. »
souffla cette dernière en rengainant son couteau. Avec un sourire entendu, comme si elle savait très bien ce que ce compliment coûtait à sa compagne, Birgit entreprit de récupérer ses flèches. Révulsée, Ninevé s'efforça de ne pas regarder. La plupart des guerriers étaient blessés, tout comme Tom et Julin. Par miracle, Galad, lui, était indemne. Un miracle ? Pas vraiment, vu la manière dont il avait manié son épée. Masculin jusqu'à l'absurde, tous ces braves prétendirent bien sûr n'avoir que des égratignures. Un bras pendant le long du corps, une seconde balafre sur le visage, si la plaie n'était pas rapidement guérie, la cicatrice serait le reflet de la première, Uno déclara pourtant qu'il fallait repartir au plus vite.
Même si elle se sentait l'obligation de guérir les blessés, Ninevée trouva cependant judicieux de ne pas s'attarder. Alors qu'Elaine venait de passer un bras autour de la taille de Tom, il refusa de s'appuyer sur elle et commença à déclamer une légende en haut chant. Au milieu des fioritures, on parvenait à peine à reconnaître l'histoire de Kirukan, la superbe reine guerrière du temps des guerres des Trollocs.
« À ses meilleurs moments, » dit Birgit. Elle avait le caractère avenant d'un sanglier coincé dans un buisson d'épineux. Bien entendu, toute ressemblance avec une personne ici présente serait une coïncidence.
Ninevée serra les dents. On ne les reprendrait plus à féliciter l'héroïne, quoi qu'elle ait pu faire. De toute façon, à cette distance, n'importe quel archer de deux rivières aurait tiré aussi bien. Même un gamin. Dans les rues, le bourdonnement suivit le petit groupe, et Ninevée, plus d'une fois, eut le sentiment qu'on l'épiait de derrière les fenêtres sans vitres. Mais les émeutiers avaient dû se passer le mot au sujet du désastre, car personne ne se montra jusqu'à ce qu'une bonne vingtaine de fils de la lumière viennent se camper au milieu du chemin, une moitié brandissant une épée et l'autre un arc avec une flèche encochée. Les soldats du Chiennard levèrent aussitôt leurs lames. Galad alla parlementer avec un officier au visage ridé par l'âge sous son casque conique. Bien qu'il lorgnât Uno et ses hommes d'un drôle d'œil, et Tom, Julien et Birgit par la même occasion, l'officier laissa passer tout ce petit monde. L'indifférence du fils à son égard agaça Ninevée. Alors qu'Elaine se contenta de passer devant les capes blanches le menton pointé et sans leur accorder un regard, comme s'ils étaient des domestiques, l'ancienne sage-dame détestait qu'on la tienne ainsi pour quantité négligeable. Le fleuve fut vite atteint. Au-delà de quelques entrepôts de pierres au toit d'ardoise, les trois quais, également de pierre de la cité, parvenaient à peine à atteindre l'eau, au-delà d'une étendue de vases séchés par le soleil. Un grand deux-mâts attendait au bout d'une de ces jetées. Avec un peu de chance, songea Ninevée, ils obtiendraient des cabines séparées. Et avec beaucoup de veine, le navire ne tanguerait pas trop. À une vingtaine de pas du quai, une petite foule attendait sous l'œil vigilant de quatre capes blanches. Ninevée dénombra une dizaine d'hommes, tous loqueteux et presque tous âgés, et deux fois plus de femmes, certaines avec un bébé dans les bras et d'autres avec deux ou trois gamins accrochés à leur jupe. Deux autres fils de la lumière défendaient l'entrée du quai. Si les enfants se cachaient les yeux dans les jupes de leur mère, tous les adultes regardaient le bateau avec de grands yeux pleins d'espoir. Cette vision serra le cœur de Ninevée. À Tanchico, elle avait vu des centaines de réfugiés en quête d'un moyen de fuir l'enfer. Pour ces gens-là, elle n'avait rien pu faire. Avant qu'elle soit en mesure d'aider ces malheureux-ci, Galad la saisit par le bras, fit de même avec Elaine et les tira jusqu'à une passerelle qui les força à descendre au pas de charge. Sur le pont, six autres fils de la lumière surveillaient des hommes pieds nus, la plupart ne portant pas de chemise, accroupis à la proue du navire. Attendant au pied de la passerelle, le capitaine regardait mornement les intrus qui avaient investi son bateau. Apercevant Galad et les deux femmes, il les lorgna d'un œil tout aussi noir. Grand et très mince, Annie Nérès, sanglée dans une veste noire, avait un visage étroit à l'expression sinistre, flanqué de grandes oreilles sans doute très pratiques pour prendre le vent. Au teint, il n'accordait pas la moindre attention à la sueur qui ruisselait sur son front.
« Tu m'as payé un passage pour deux femmes, » dit-il à Galad. « Tu t'attends à ce que j'accepte gratuitement la troisième fille et tous ces types ?»
Birgit foudroya le regard du capitaine, qui parut ne pas s'en apercevoir.
« Mon bon capitaine, vous serez payé, »
dit très calmement Elaine.
« À condition que le prix soit raisonnable, »
modéra Ninevée, se fichant du regard courroucé que lui lança la fille héritière. Nérès serra les lèvres, sa bouche en disparaissant presque, et s'adressa de nouveau à Galad.
« Si tes hommes veulent bien descendre de mon bateau, je vais appareiller.
Je déteste plus que jamais être ici en plein jour. Dès que vos autres passagers auront embarqué, »
dit Ninevée, en désignant les réfugiés massés sur le quai. Nérès se tourna vers Galad, s'avisa qu'il était allé s'entretenir avec les fils et répondit, le regard rivé au-dessus du crâne de Ninevée.
« Tous ceux qui pourront payer. C'est-à-dire pas beaucoup. Et de toute façon, si je me trompe, je ne pourrai pas prendre tout le monde. »
Ninevée se dressa sur la pointe des pieds afin que l'homme ne puisse pas rater son sourire, un rictus plutôt, qui fit baisser la tête au marin.
« Vous les accepterez jusqu'au dernier, capitaine, si vous tenez à vos belles oreilles. »
Pour ponctuer sa menace, Ninevée baissa les yeux sur son couteau. Nérès fit mine de répliquer, mais il écarquilla les yeux, comme s'il venait de voir quelque chose derrière la jeune femme.
D'accord. Mais je veux quand même être défrayé d'une manière ou d'une autre. Je fais des dons au Nouvel An, et ce jour est passé depuis longtemps.
Reposant ses talons sur le pont, Nineveh jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Tom, Julien et Uno étaient là, les regardant, le capitaine et elle, d'un air plutôt bienveillant. Enfin, pour autant que c'était possible quand on avait le visage en sang, et dans le cas du vétéran, un horrible bandeau peint sur un œil. Une bienveillance des plus suspectes, tout bien pesée.
« Avant de débourser un sou, j'attendrai que tout le monde soit à bord !»
lâcha Nineveh. Puis elle partit en quête de Galad, qui, selon elle, méritait des remerciements. Il avait pensé bien agir, ça ne faisait aucun doute. Avec les meilleurs hommes, c'était justement le problème. En toutes circonstances, ils étaient convaincus d'avoir fait de leur mieux. Cela dit, de quelque façon qu'ils s'y soient pris, Tom, Julien et Uno venaient de lui épargner d'interminables marchandages. En train de parler avec Elaine, Galad ne cachait pas sa frustration, et il rayonna soudain en apercevant Nineveh.
« Nineveh, j'ai payé votre passage jusqu'à Boanda. C'est à mi-chemin de l'Altara, où la rivière Boerne se jette dans le fleuve Eldar. Hélas, je n'ai pas pu faire mieux. Le capitaine Nérès a vidé ma bourse, et j'ai dû emprunter pour compléter la somme. Ce vautour exige 10 fois le prix normal d'un passage. À partir de Boanda, je crains que vous deviez vous débrouiller pour gagner Kemlin par vos propres moyens. Vraiment, j'en suis désolé.
Tu en as déjà fait plus qu'assez,
dit Elaine en tournant la tête vers Samara et ses colonnes de fumée.
J'avais donné ma parole,
fit Galad, presque accablé. À l'évidence, les deux jeunes gens en étaient à ce point de leur conversation quand Nineveh les avait rejoints. Non sans mal, l'ancienne sage-dame parvint à remercier Galad, qui refusa sa gratitude avec sa grâce habituelle, mais en ayant l'air de penser qu'elle ne comprenait pas plus que sa sœur. En l'occurrence, il n'avait pas tort. Pour tenir sa parole, il avait déclenché une guerre. Sur ce point, Elaine avait raison, les choses finiraient par en arriver là. Pourtant, alors que ses hommes avaient investi le navire, il n'avait pas exigé un tarif plus raisonnable. Le bateau lui appartenant, Nérès avait le droit de fixer ses prix, tant qu'il consentait à emmener Elaine et Nineveh. C'était vrai. Déterminé à bien agir, Galad ne prenait jamais en compte le coût, pour lui et pour les autres, de sa rectitude morale. Au pied de la passerelle, il s'arrêta, contemplant la ville comme s'il voyait l'avenir.
« Restez loin de Randaltor, » dit-il. « La destruction marche dans son sillage. Et avant d'en avoir fini, il disloquera de nouveau le monde. Oui, tenez-vous à l'écart de lui. »
Il remonta sur le quai, demandant déjà qu'on lui apporte son équipement. Nineveh et Elaine échangèrent un regard interloqué, puis elles détournèrent la tête, très gênées. Il n'était pas facile de partager un moment pareil avec quelqu'un dont la langue assassine, l'instant d'après, pouvait vous arracher le cœur. En tout cas, c'était pour ça que Nineveh se sentait embarrassée et déconfite. La réaction similaire d'Elaine, en revanche, dépassait son entendement, sauf si la jeune Shippie reprenait peu à peu ses esprits. De toute évidence, Galad ne se doutait pas qu'elle n'avait aucune intention d'aller à Kemlin. Les hommes n'étaient jamais très intuitifs, alors l'être à ce point. Un long moment durant, les deux jeunes femmes évitèrent soigneusement de se regarder.